c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, bienvenue dans Nos Adorés, je suis Julie Sigel et je suis ravie de recevoir à nouveau aujourd'hui Patricia Tassi qui était venue une première fois déjà nous parler du sommeil.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui on va à nouveau parler du sommeil mais plus des troubles du sommeil et de ce qui peut, des petits couacs qu'il peut y avoir chez les ados. Donc vous êtes professeur d'université, vous êtes enseignant-chercheur, vous avez passé 30 années de votre vie à faire de la recherche sur le sommeil précisément. Mmh. Et pendant 10 ans vous avez animé au sein de...
Ah ben la fac de psycho, c'était la fac de psycho, j'ai une consultation d'insomnie en utilisant les techniques de thérapie comportementale et cognitive.
Et vous avez formé donc des étudiants qui maintenant ont pris le relais.
Oui, j'ai créé le premier master en France de thérapie comportementale et cognitive et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai pu former un certain nombre de gens aux thérapies cognitives et comportementales de l'insomnie et pour qu'elles prennent la relève. Voilà.
Exactement, parce que vous êtes une jeune retraitée.
Oui.
Donc, on avait dit que donc, dans une première mission, on avait parlé un peu du sommeil classique. Aujourd'hui, c'est aux troubles du sommeil qu'on va s'intéresser, comment les détecter, comment les traiter, et surtout comment ne pas paniquer. Parce que vous avez en plus des techniques de TCC pour ne pas paniquer, donc on va pouvoir...
Oui. Oui, c'est de l'insomnie en général, ils ne sont pas focalisés sur les crises, les attaques de panique.
Non, je parlais de la panique des parents en l'occurrence.
Ah, d'accord.
Donc un ado qui dort mal, c'est finalement assez fréquent, vous nous l'aviez expliqué dans le podcast du 14 janvier, mais comment savoir si c'est pathologique?
Assez fréquent, entendons-nous. Non, ça reste quand même, la majorité des ados quand même dorment relativement bien, mais quand ils se mettent à mal dormir, c'est moyen, effectivement, ça pose problème.
D'accord, ok. Donc on va en parler tout de suite. Donc un enfant qui a connu une mise en place complexe d'un rythme veille-sommeil, est-ce qu'il est présumé coupable de devenir un ado avec un sommeil...
Présumé coupable.
Ouais. Avec un sommeil problématique?
Bon, moi j'ai envie de dire qu'un enfant qui a été un mauvais dormeur peut effectivement donner aussi... souvent, un mauvais dormeur plus tard.
Ça, c'est pour les parents d'enfants jeunes qui viennent à peine de,
voilà, oui,
de sortir de cette galère.
Mais d'abord, il y a parfois une amélioration du sommeil à l'adolescence, même s'il n'est que transitoire.
D'accord.
Mais disons que la question clé, c'est surtout pourquoi on dormait mal quand on était plus jeune. Est-ce que c'est pour des raisons organiques? Dans ce cas-là, si rien n'a changé de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison que le sommeil s'améliore. Si c'est... pour des raisons de mauvaises habitudes du sommeil qui se sont mises en place, celles-là, elles peuvent perdurer. Donc, effectivement, dans ces cas-là, une thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie qui va justement chercher à débusquer toutes les entorses à l'hygiène du sommeil peut être effectivement très, très efficace puisqu'elle peut permettre de casser ces cercles vicieux.
Donc, ce que vous appelez des raisons organiques?
Bah, des raisons organiques, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une pathologie, ça
D'accord.
peut être de la douleur, ça peut être... Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi, ça c'est pas organique, c'est psychologique, je dirais, il peut y avoir aussi des troubles de l'anxiété. Il y a pas mal d'enfants insomniaques qui le sont parce que ce sont des enfants anxieux, qui ont des personnalités anxieuses. Et dans ce cas-là, évidemment, ça passe par une psychothérapie.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Si les raisons de cette anxiété n'ont pas changé, et souvent si c'est lié à la personnalité, ça ne va pas changer comme ça en claquant les doigts.
Bien sûr.
Ça demande une prise en charge psychologique le plus rapidement possible.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide tour d'horizon des principaux troubles du sommeil répertoriés à l'adolescence et à l'âge adulte, j'imagine?
Bah alors, écoutez, j'ai envie de dire que le trouble majeur, c'est quand même l'insomnie. On sait qu'il y a à peu près un peu plus de 35% d'adolescents qui sont insomniaques.
Ah oui, tout de même.
Ça fait beaucoup. Pas forcément insomniaques chroniques, mais disons qu'ils présentent assez fréquemment des troubles du sommeil liés à soit une difficulté d'endormissement, soit à des réveils très précoces et à de la prise de médicaments. Donc, alors ça touche, c'est vrai, majoritairement les filles, mais ça c'est vrai en général. Hein. Je veux dire, les femmes sont plus insomniaques que les hommes. On est à peu près dans une consultation d'insomnie à 2/3, 1/3. Hein. Bon, alors c'est vrai chez les ados également. Il faut regarder s'il y a des signes de souffrance psychique ou physique, voire même sociale. Et voilà, donc c'est surtout les filles, c'est vrai. C'est parmi les insomniaques qu'on va retrouver aussi beaucoup de redoublants, beaucoup d'ados décrocheurs qui ont des difficultés scolaires, et puis aussi des comportements à risque. Donc l'insomnie c'est une chose, mais les conséquences de l'insomnie c'en est une autre. Comportement à risque, c'est-à-dire tabac, alcool, idées suicidaires, oui. voire tentative de suicide, consommation de stupéfiants, etc. Alors maintenant, parmi les autres troubles du sommeil, on va retrouver tous ceux qui sont liés avec le décalage de phase.
Dont on avait parlé un peu dans la première émission, voilà, qu'on vous encourage à écouter.
Ce fameux retard de phase qui peut, dans des cas graves, donner lieu à de la désynchronisation complète avec des ados qui vont dormir de jour et puis être éveillés la nuit. Donc ça, c'est un réel problème et qui est au départ physiologique. Et pour le reste, j'ai envie de dire, c'est pas plus que ça. Je veux dire, l'apnée du sommeil, ça touche à peu près 2 à 3% des enfants. Et au moment de l'adolescence, parfois, ça s'arrange un petit peu parce que justement, le remaniement hormonal peut être positif par rapport à ça.
D'accord.
Ensuite, on a des problèmes à mesurer. Les parasomnies aussi s'arrangent un petit peu avec l'adolescence. C'est ce qu'on appelle les parasomnies, c'est-à-dire les cauchemars, les terreurs nocturnes, le somnambulisme. Tout ça, ça s'arrange un petit peu à l'adolescence. Et enfin, l'hypersomnie, là, on est un peu plus embêté. On ne connaît pas la prévalence parce que l'hypersomnie, on va la mesurer évidemment avec l'hypersomnolence pendant la journée. Or, chez un adolescent, l'hypersomnolence pendant la journée, elle peut être liée tout simplement au fait qu'il n'a pas suffisamment de sommeil. Et par contre, conséquence, c'est difficile, sauf à faire une polysomnographie, de savoir s'il y a une hypersomnie idiopathique ou une narcolepsie qui est en train de se manifester à bas bruit, ou s'il s'agit simplement de fatigue excessive ou d'hypersomnolence excessive pendant la journée liée au fait que l'ado n'a pas assez dormi.
D'accord. Donc vous, avec une équipe de médecins, en fait, vous travaillez oui. sur le sommeil. Quelles sont les techniques de TCC que vous utilisez pour reconditionner un sommeil de qualité ?
Alors, si je prends la TCC pure hein, de l'insomnie, on va dire que la première chose, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation, ça c'est vrai dans toutes les TCC, c'est expliquer aux patients comment fonctionne le sommeil, quels sont tous les processus qui régulent le sommeil. Ça c'est une étape absolument incontournable parce que c'est ce qui va permettre au patient ensuite de comprendre ce qui lui arrive ouais. et d'être autonome
par rapport à spécialiste de son
qui soit propre. Voilà exactement qui soit spécialiste de son propre trouble. Ensuite la deuxième chose c'est d'arriver à identifier toutes les entorses à l'hygiène du sommeil. C'est-à-dire, par exemple, on fait des siestes trop longues le week-end, oui. etc. Ou alors, on prend un tas de boissons énergisantes ou de café, etc. Mm-hmm. et tout pour tenir pendant la journée, ce qui évidemment va impacter la nuit. Ou alors, il y a tout un tas de choses, effectivement, où on utilise des écrans jusqu'à pas d'heure. Tout un tas de choses qui peuvent effectivement être très très négatives. Une fois qu'on a fait ça, après on va rentrer dans les consignes propres au TCC. Et la première, qui peut effectivement paraître curieuse a priori, mais qui est celle qui est la plus efficace, c'est de construire de la dette de sommeil en augmentant le temps passé debout. C'est-à-dire qu'en fait,
oui, d'accord.
on va demander aux patients, on va travailler ça ensemble, faire une restriction du temps passé au lit, pour en fait augmenter le temps passé debout, donc augmenter la construction de dette de sommeil, autrement dit augmenter la pression de sommeil, pour que le sommeil consécutif soit plus lourd et plus profond. Plus vous êtes resté debout et vous avez construit la dette, plus votre sommeil consécutif va être lourd et profond. Et ça, c'est parfois contre-intuitif, parce que quand j'explique aux gens, quand ils arrivent en disant...
C'est pas Guantanamo, on est d'accord. On va pas priver les gens de sommeil.
Non, parce que là... Si. Ils sont partiellement privés de sommeil. Ah, si.
D'accord.
Mais par contre, on va le faire dans un contrat thérapeutique avec le patient. C'est-à-dire que si ça lui paraît trop dur, on va fixer des horaires de coucher et de lever avec le patient de manière à ce qu'effectivement, ce soit quelque chose qui soit faisable pour lui. Parce que ça sert à rien de lui imposer des trucs invraisemblables. Moi, je m'impose à moi des choses. Si de temps en temps, ça m'arrive d'avoir période d'insomnie parce que j'ai des soucis ou n'importe quoi, moi, je me colle à 5 heures de temps passé au lit. Minuit, 5 heures. Je peux vous garantir qu'en 3 jours, c'est réglé. Hein. Je dors comme un pape. Enfin, je pense que les papes, ça dort bien, remarque. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que... Voilà.
On s'imagine.
Donc, c'est quelque chose qui va être fixé avec le patient. Mm-hmm. Mais une fois qu'il a compris pourquoi c'est important, c'est-à-dire que plus on construit de la dette, plus le sommeil va être lourd et profond. Une fois qu'il a compris ça, il marche avec, quoi. Je dis.
Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que souvent, les gens viennent vous voir et vous disent, je me couche à 22h et j'attends jusqu'à 1h du mat pour m'endormir, c'est affreux, qu'est-ce que je fais? Et là, vous leur dites, ben, n'allez pas au lit. Enfin,
voilà.
En gros, c'est ça.
C'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent, moi, je dors pas. Et ils ont l'impression que moi, je leur dis, ben, vous allez dormir encore moins. J'ai dit, non, moi, je vous dis pas que vous allez dormir moins, je vous dis que vous allez passer moins de temps au lit, c'est pas la même chose. Mm-hmm. Et ce qu'il faut, c'est que plus vous êtes debout, plus vous construisez de la dette de sommeil. Et donc, quand vous allez vous coucher, pan ! Et ben voilà, vous êtes suffisamment fatigué pour que votre cerveau réapprenne à dormir de façon profonde et
continue. Et cette association lit-sommeil dont vous nous aviez parlé dans la première émission, vous pouvez nous rappeler un petit peu
Alors, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le contrôle du stimulus, c'est-à-dire que lorsque, très souvent, les insomniaques, vous savez, ils ont leur cerveau à associer d'autres activités que le sommeil avec le lit. En particulier, alors parfois il y a la télé dans la chambre, parfois etc. et tout, ou l'utilisation de tablettes.
C'est le cas pour les ados parce qu'ils vivent globalement dans leur lit. Hein.
Absolument,
oui.
Absolument. Mais j'ai envie de dire que l'insomnie, c'est aussi une autre activité que le sommeil. Si pendant des heures vous faites la brochette dans le lit parce que vous n'arrivez pas à dormir et que vous pensez à je ne sais pas quoi, bah forcément, je veux dire, votre cerveau, il associe ça. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est si vous n'avez pas réussi à vous endormir ou à vous rendormir...
Au bout de combien de temps faut-il se lever?
Au bout de 30 minutes,
vous levez. 30 minutes, d'accord.
Bah, alors, normalement, les manuels vont dire 15 minutes. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu spartiate. Donc, je suis un peu plus sympa avec mes patients et je leur dis, allez, 30 minutes. Si 30 minutes, vous n'avez pas réussi à vous endormir, alors vous vous levez. Vous changez de pièce. Vous allez faire une activité calme ailleurs.
Un puzzle de 1000 pièces.
Hein?
Un puzzle de 1000 pièces.
Ce que vous voulez, mais moi j'ai dit en général repasser, hein, faites du repassage. Alors si c'est un homme, je dis comme ça, votre femme elle va être super contente et tout ça et tout. Hein.
Les ados aussi peuvent repasser d'ailleurs.
Bon, mais lire ou même, oui, il ne faut pas que ça soit trop excitant quand même.
D'accord.
Encore une activité calme et vous vous recouchez quand vous pensez que vous allez pouvoir vous endormir. Voilà. Et ça c'est vraiment impératif pour que le cerveau reprennent une association ici je dors.
Mmh. Donc un ado qui j'allais dire trifouille dans sa chambre, parce qu'on les entend souvent quand même, ils ont des activités nocturnes de, je sais pas, ils creusent, je sais pas ce qu'ils font.
Ouais, ils font des tunnels jusqu'à la cave.
C'est ça, oui, voilà. Oui. Un ado comme ça qui n'est pas dans son lit, qui s'agite, on n'ouvre pas la porte, on lui dit écoute, va te coucher maintenant.
De toute façon, j'ai envie de dire, un ado, c'est un ado. C'est-à-dire que le prendre de front, c'est de toute façon contre-productif.
Ça fonctionne pas.
Non, ça fonctionne pas. Je crois que la meilleure chose qui fonctionne, c'est de lui expliquer. Moi, je suis vraiment pour ça. J'ai eu relativement peu d'ados, hein, je dois dire, dans ma consultation. Mais la première chose, c'était expliquer. Expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi, etc. Mmh. C'est jamais pour embêter. C'est toujours parce qu'il y a une bonne raison. Et après, j'ai envie de dire, mais c'est aussi de la responsabilité de l'ado. Il faut aussi qu'il se prenne en charge et qu'il décide par lui-même. Mais s'il a bien compris, il décidera par lui-même. Bon, après, évidemment, ça dépend des ados. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus durs. Mais je pense pas que la coercition soit une bonne méthode avec un adolescent.
Mais le téléphone sous l'oreiller la nuit, il décide ou il décide pas? Bon, on coupe le wifi, ça c'est sûr, mais...
Il décidera ce qu'il voudra. Une fois qu'il aura compris qu'il est en train de se bousiller la santé, c'est à lui de voir s'il veut continuer à se la bousiller. Enfin, je sais pas, je suis peut-être un petit peu cash quand je dis ça, mais de toute façon, expliquez-moi comment vous pourriez empêcher un ado d'avoir son truc. Vous le lui confisquez.
Oui. On est nombreux à faire ça.
Oui.
Et on est assez fiers d'ailleurs de le faire.
Je sais pas si c'est sur le long terme. Après, bon.
Vous pensez que c'est pas une éducation? c'est ça ?
Non, ah non, c'est pas une question de pas une éducation, c'est une question d'efficacité. Moi, je suis toujours pour l'efficacité. Je me dis, qu'est-ce qui est le plus efficace ? Qu'il comprenne lui-même et qu'il fasse lui-même de son plein gré. Là, on est sûr qu'on est sur le long terme. Ou effectivement, qu'on emploie la manière forte, quitte à ce que l'ado, à un moment ou à un autre, trouve la parade. Et la parade, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être avoir un deuxième portable caché ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Mais bon, voilà. Je ne sais pas quelle serait la meilleure solution.
C'est une réflexion intéressante.
Ouais. En même temps, s'il n'y a pas d'autre solution, bah, c'est sûr que vaut peut-être mieux ça. Mais moi, je pense que la première chose, c'est de lui expliquer.
Oui.
Il y a des manuels pour ça. Hein. On parlera peut-être tout à l'heure.
Peut-être, oui, effectivement. Mm-hmm. On entend souvent trouble du sommeil égale dépression égale tendance suicidaire. Ça fait un peu peur aux parents, parce qu'on a l'impression que voilà, si l'enfant dort pas, c'est que forcément il va plonger ou tomber dans la déprime, comme on dit. Et du coup, avoir des idées noires, vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, effectivement. Comment rassurer un peu les parents et éviter tous ces amalgames qui n'en sont pas réellement... Enfin, c'est entre les deux.
Non, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment des amalgames, hein, parce que c'est quand même... vous savez, les troubles du comportement, ça touche 36% des adolescents qui sont insomniaques. Autrement D'accord. dit, l'insomnie, effectivement, elle produit des troubles de l'humeur, en particulier de la dépression, parfois des idées suicidaires, si vraiment les troubles sont importants, mais de l'irritabilité aussi. Ça produit également une désinhibition comportementale, avec en particulier une difficulté à gérer l'impulsivité, parce que ça agit sur certaines, le manque de sommeil, sur certaines structures du cerveau, comme par exemple le cortex préfrontal, qui est une zone du cerveau qui intervient beaucoup dans l'inhibition du comportement. Et donc, voilà, parfois, des adolescents qui manquent de sommeil sont des adolescents qui sont vraiment à risque. Donc, non, c'est pas anodin. J'ai envie de dire, si votre ado a un trouble du sommeil, allez consulter le plus rapidement possible. Voilà.
D'accord, merci.
Je suis désolée, je suis pas rassurante pour les parents, mais j'ai pas envie non plus de raconter des cracks, quoi.
On n'est pas là pour ça, effectivement. Ouais. Enfin, pas aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des grands et des petits dormeurs ?
Ah oui, et ça c'est en général génétique. Et alors, on peut éventuellement modifier ça, mais bon.
C'était ça ma question. Vous lisez dans mes pensées, c'est fabuleux.
Ouais,
est-ce qu'on peut modifier la nature ?
Je suis en rapport avec l'au-delà, moi.
D'accord.
Plus sérieusement, disons que il faut voir est-ce que ça présente un intérêt ou pas. Donc, on peut, par exemple, quand on est un grand dormeur, en diminuant très, très progressivement son temps de sommeil sur 24 heures, on peut arriver à devenir un dormeur normal. Un très petit dormeur, je ne sais pas si ça présente vraiment un intérêt. En revanche, si on est un petit dormeur...
C'est pas mauvais pour la santé d'être un petit dormeur, vous nous l'aviez dit.
Ah, pas du tout.
C'est physiologique, c'est naturel.
Notre président de la République est un très petit dormeur. Je pense que tous mes collègues de France et de Navarre du sommeil
Contrairement
connaissent...
au pape.
Je ne sais pas, je ne connais pas le rythme du sommeil du pape, c'est embêtant. Mais en tout cas, de Macron, oui, tout le monde sait qu'il ne dort que 4 heures. Et tous les spécialistes du sommeil de France connaissent la structure du sommeil d'Emmanuel Macron. Il a 50% de sommeil lent profond, 50% de sommeil paradoxal. Il se porte comme un charme. D'accord ? Ces mêmes pourcentages ne sont pas les mêmes pour les gens qui dorment des durées normales de 7-8 heures. Donc, voilà. Non, quand on est un petit dormeur, c'est tant mieux pour... D'ailleurs, beaucoup de chefs d'État, Napoléon aussi, était un petit dormeur. Ce sont des gens qui dorment très, très peu, mais qui se portent absolument
Donc,
très,
possiblement
très
une carrière politique pour les ados petits dormeurs.
Si vous voulez.
Non, je sais pas.
Non, c'est une bonne idée. Je vais faire des perspectives de choix, là.
C'est ça. Quelle est finalement la responsabilité d'un parent pour donner un cadre de sommeil positif et structurant à l'ado ? À part confisquer le téléphone, on a compris que ce n'est pas forcément bon, d'accord.
Moi, j'ai envie de vous répéter la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. La responsabilité, elle doit être, à un moment donné, déléguée. Le parent,
L'éducation,
sa responsabilité, c'est de créer une atmosphère...
On ne s'engueule pas le soir.
Non, mais même... oui, alors ça, évidemment. Mais une atmosphère sécurisante, d'accord ? Je veux dire, les ados qui sont à problème par rapport à ça sont souvent aussi des ados qui vivent dans des atmosphères familiales qui sont très peu sécures, où il y a de la violence, où c'est déstructuré, etc. Mmh. Donc, créer une atmosphère familiale qui soit rassurante, qui soit sécurisante, qui soit apaisée, qui soit sereine, etc. Voilà, c'est leur Première responsabilité. Deuxième responsabilité, c'est d'expliquer les choses aux enfants. Ça nécessite qu'eux-mêmes aient fait la démarche de savoir exactement comment fonctionne un petit peu le sommeil, etc. Donc, pour pouvoir leur expliquer et les responsabiliser. Ça veut dire qu'en fait, leur responsabilité, c'est de responsabiliser leur gamin, quoi.
Tout à fait.
Moi, j'ai envie de dire que c'est par là que ça passe. Mais, comme je viens de l'expliquer, pour ça, il faut qu'ils soient en mesure aussi de proposer à l'enfant un milieu sécure. Vous savez, quand on dort, on est en état de fragilité. L'organisme, quel qu'il soit, pas seulement humain, on est particulièrement vulnérable. Par conséquent, si on ne peut pas dormir dans un environnement sécure, comment voulez-vous qu'on dorme bien ? C'est juste impossible.
Tout à fait.
Absolument impossible. Donc ça, c'est quand même j'ai envie de dire la base, le béaba.
Merci Patricia Tassi, on va passer tout de suite à la rubrique suivante.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique.
Question d'ado.
Oui, donc on a des questions aujourd'hui pour vous, et j'en ai reçu encore beaucoup sur mon Instagram, donc j'ai dû sélectionner un petit peu. Donc on a un auditeur de 15 ans qui dit « Je dors très bien dès que je fume un joint juste avant, mais mes parents sont inquiets. » Bah dis donc, c'est étonnant. Le cannabis procure une sensation de détente, mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme substitut pour se détendre à ce jeune homme ?
Bah alors déjà, il faut qu'il sache, ce petit jeune homme, que le cannabis produit une sensation de détente, mais c'est un psychostimulant.
Ah,
ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça va produire l'apparition de ce qu'on appelle les ondes alpha pendant le sommeil, qui sont des ondes d'éveil, et donc ça fragmente, ça allège et ça fragmente son sommeil.
D'accord.
C'est une première chose. Deuxièmement, un substitut, non, moi, je ne vais pas remplacer une drogue par une autre drogue. Alors là, je crois qu'il faut laisser vraiment le cerveau tranquille, et le laisser sécréter ce qu'il a envie de sécréter en temps utile. Donc, pour moi, le meilleur remède, si on cherche la sérénité, c'est d'apprendre la méditation de pleine conscience.
Très bien, c'est pas les capsules de mélatonine et tout ça, donc on passe d'abord par la méditation, puis après on voit.
Les capsules de mélatonine, même si pour l'instant, toutes les études ont montré qu'il y avait relativement peu d'effets secondaires de la mélatonine par rapport à tous les autres psychotropes.
On évite si on peut quand même.
Oui, parce que c'est une hormone, je veux dire, on prend une hormone, donc moi j'ai envie de dire qu'on arrête un petit peu de se gaver d'un bazar de choses, alors qu'il peut y avoir des méthodes naturelles. Elles sont évidemment plus difficiles à acquérir, c'est plus difficile d'apprendre
un petit peu plus motivé
à faire de la méditation de pleine conscience, plutôt que d'avaler une capsule de machin, mais sur le long terme, c'est quand même beaucoup plus efficace.
Tout à fait, merci. Donc, le sexe fait-il dormir ? Demande un auditeur de 19 ans. Ben quoi ?
Oui, mais surtout les hommes.
Les garçons.
Pour les femmes, c'est plutôt l'inverse.
Exactement. On a une auditrice de 14 ans qui nous dit qu'elle a beau essayer, elle ne peut pas dormir avant minuit, sauf si elle s'endort devant un film. Que faire ?
Voilà, je veux dire, on a un exemple type de ce fameux chronotype du soir, donc voilà. C'est tout à fait physiologique.
Le film, en fait, c'est qu'elle va se coucher
trop tôt. Le film peut aider si c'est quelqu'un qui a des petits soucis ou des machins comme ça, etc., parce que ça va la détendre, ça va la sortir de son univers un petit peu anxiogène. Mais après, je veux dire, elle a juste les symptômes d'un retard de phase, c'est tout. Donc, ce que je propose, moi, parce que dans les manuels ou dans les articles, on va dire qu'il faut retarder jusqu'à ce qu'on ait fait le tour du cadran pour arriver à une heure normale. Moi, je trouve que c'est débile. Donc, moi, je préfère autre chose, proposer autre chose qui soit, à mon avis, plus sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut se lever très tôt. Il faut se lever plus tôt que la normale pour commencer à construire de la dette plus tôt et donc avoir envie de se coucher plus tôt.
Ah, oui,
si elle se couche à minuit, c'est que probablement elle se lève à, je sais pas moi, 7h, 8h ou un truc comme ça. Et bien qu'elle commence à se lever à 6h du matin pendant plusieurs jours d'affilée, elle verra, elle va être fatiguée, c'est clair, elle va être fatiguée, mais à un moment donné, elle aura envie de se coucher plus tôt aussi.
D'accord, merci. On a un jeune homme qui nous dit qu'il pratique du sport à haut niveau et 3 fois par semaine après l'entraînement, il a des difficultés à s'endormir alors qu'en fait il est épuisé, nous dit-il. Il voudrait savoir... Ah non, pardon, c'était une auditrice, excusez-moi, une auditrice de 16 ans. Bon, je pense que c'est valable pour...
Oui, disons que le sport, c'est très bon dans la journée, mais le soir, non.
Ah.
Pourquoi ? Parce que ça fait augmenter la température et, comme je vous l'ai dit, pour que le sommeil soit de bonne qualité, il faut que la température, elle soit basse. Donc, température corporelle, j'entends, évidemment. Donc, la température est trop élevée et en plus de ça, le sport, ça produit aussi des décharges d'adrénaline. Donc ça, c'est autant de choses qui sont complètement antinomiques avec le sommeil. parce qu'effectivement, la température est trop élevée, parce qu'effectivement, on est en état de surexcitation. Donc, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est arrêter plus tôt. Alors, si c'est possible, évidemment, l'idéal, c'est de ne plus faire du sport après 19h. Mais ça, malheureusement, c'est parfois pas possible. Mais disons, en tout cas, éviter de faire tard le soir.
D'accord. Merci. La dernière question que je ne vous avais pas encore soumise, mais vous allez me dire si... Enfin, je l'ai trouvée drôle. Pourquoi a-t-on cours en hiver et contrarie donc-t-on notre hibernation ? Nous demande un ado.
Ah ouais.
Donc on dort plus en... Enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est que voilà, il avait envie de dormir tout le temps en hiver.
Oui.
Alors, ce qui est assez naturel, non ?
Et je veux dire, il est loin d'être le seul parce que tout simplement, en hiver, la photopériode, ce qu'on appelle la photopériode, c'est-à-dire la durée de jour, est évidemment plus courte.
Oui.
Bon. Et donc, il y a plus de fabrication de mélatonine. Et on y revient à notre mélatonine. Alors qu'en été, la photopériode est longue et du coup, effectivement, on produit plus de mélatonine, moins de mélatonine. Oui. Pardon. Donc, on a en effet plus envie de dormir en hiver à cause de ça. Mais pas seulement. Après, il y a aussi tous les remaniements hormonaux qui font que on est génétiquement, on devrait se mettre effectivement en mode off en hiver et hiberner. Et moi, je le suis complètement, cet ado, parce que franchement, si je pouvais hiberner, oh là là.
Ah oui, moi aussi.
Ça serait le bonheur. Ce serait le bonheur. Donc voilà, ouais. C'est pour ça qu'il...
Merci Patricia Tassi.
C'est moi qui vous
remercie. On va lancer la dernière rubrique. Donc le conseil de bouquin.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique
Les ados vous conseillent.
Donc Patricia, vous m'avez parlé d'un livre que vous conseillez, dites-vous, à tous vos patients sur le sommeil. Alors est-ce que vous pouvez nous donner la référence afin que les parents puissent s'éduquer et éduquer à leur tour leurs ados ?
Oui, mais même les ados peuvent le lire parce que c'est très facile à lire, c'est pour ça que je le conseille.
Très bien.
Il s'appelle « Comment retrouver le sommeil par soi-même ».
Je note en même temps, c'est pour ça que vous prenez du temps pour le dire.
Oui, comment retrouver le sommeil par soi-même,
oui.
Du docteur Sylvie Royan-Parola. Royan, c'est R-O-Y-A-N-T.
D'accord.
Tiré Parola, comme ça se prononce, P-A-R-O-L-A, aux éditions Di Jacob. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il est assez complet dans l'explication des processus de régulation du sommeil, etc., qu'il donne énormément de trucs, d'astuces, etc. Évidemment, toutes les composantes de la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie, puisque Sylvie Royan-Parola pratique assidûment ça à Paris. Et en même temps, il est vraiment facile à lire.
Parfait.
Donc, voilà.
Parfait pour nous. Merci beaucoup. Et merci pour ces échanges riches. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que nos auditeurs aussi.
Eh bien, tant mieux. Merci à vous.
Merci Patricia.
Et bonne chance aux ados et à leur sommeil.
Oui.
Un merci. Petit bisou, je leur fais.
C'est très gentil. Au revoir et à bientôt.
C'est pas croyable. On peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien. On peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici. Tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,